Voilà donc un verset dans lequel Dieu exprime ses vœux pour nous. Des plans de, non de malheur, mais des plans de paix. Alors moi, ça m'a fait penser un tout petit peu aux vœux que nous avons l'habitude de prononcer les uns pour les autres, que ce soit à Nouvel An, que ce soit aux anniversaires. Et puis parfois, on se met à réfléchir en se disant, mais ces vœux, qu'est-ce qu'il en devient ? Est-ce que c'est pas un peu bon marché, parfois, de dire, je te souhaite une bonne santé ? Et en réalité, on n'en sait rien. Qu'est-ce que l'année nous attend ? On ne sait pas très bien. Puis parfois, dans la vie, on peut avoir l'impression aussi que les projets que Dieu exprime pour nous, que les vœux qu'il fait à notre égard, que ça ne se réalise pas forcément. En tout cas, pas tel qu'on le voudrait. Et en y réfléchissant, j'ai pensé à un personnage biblique. Un exemple vraiment frappant qui montre à quel point la vie peut être imprévisible. On souhaiterait parfois, et puis on croit que c'est ce que Dieu veut pour nous. Et puis, ce n'est pas forcément ce qui arrive. C'est un personnage qui est né dans une famille nombreuse. Un peu comme moi. Moi, je suis né dans une famille de 7. Lui est né dans une famille de 12. C'est encore, j'allais dire pire, non, c'est encore mieux. Moi, je suis né en plein milieu. Lui, il était né comme avant-dernier. Une belle famille de croyants, de personnes qui se confient en Dieu comme l'ancêtre Abraham. Et donc il s'agit bien du 11e fils, vous avez compris qu'il s'agit de Joseph, bien sûr. 11e d'une série de 12. Mais en même temps, le texte ne laisse aucun doute, c'est le premier fils que Jacob a eu avec sa femme préférée, c'est celle pour laquelle il a dû travailler tant d'années. Et il s'agit bel et bien du fils préféré. Quand l'histoire commence dans la Bible, il a 17 ans. 17 ans et être le petit préféré, le petit gâté de la maison. J'allais dire, ça ne doit pas être évident. Et justement, Joseph, il croyait que c'était tellement évident. Et il en profite. Il en profite parce que, par exemple, quand ses frères vont faire des bêtises, qu'est-ce qu'il va faire lui ? Rapporter. Je ne sais pas si on dit ça ici à Bruxelles, mais à Liège, on dit racuspot à la compote. Racuspoter. Rapporter. Pas gentil, ça. Et Jacob, le papa, lui, il ne dit rien. Il ne dit rien. Au contraire, le texte nous dit que Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il avait donné une tunique de luxe. Alors mettez-vous à la place des autres frères. Pas évident à vivre. Vous imaginez leur réaction. Voilà que le favori de la maison, le petit gâté, le pourri gâté même, celui qui rapporte tout ce qu'on fait, qui est traité comme le seul prince de la famille, bien c'est lui qui reçoit tout. Et pour combler le tout, ce petit Joseph se met même à rêver. Vous vous rappelez de son rêve ? Il rêvait de quoi ? Que toute sa famille s'inclinait devant lui. Oh, il rêvait de gloire, de glamour. Il s'y croyait déjà. Pas du tout un rêve innocent. Et là encore, on comprend l'exaspération des frères. Exaspération qui devient petit à petit de la haine. Ils ne peuvent plus le supporter. Alors si on voulait faire un peu décrire l'identité de Joseph, on dirait quoi ? Bien, il est jeune, 17 ans, c'est jeune. Mais en plus, c'est le préféré, c'est le pourri gâté, c'est le rêveur de la famille. Il est naïf et rapporteur. Un gamin de 17 ans, c'est vrai qu'à 17 ans, on est encore gamin, enfin quelqu'un de 60 ans peut le dire, hein, je pense. Il a tout. Il est croyant, né dans une famille croyante. Il est aimé, voire adoré. Un gamin de 17 ans qui a tout et pourtant il est insupportable. Insupportable. Vous en connaissez, vous, des jeunes comme ça, des ados insupportables, qui ont tout, mais insupportables. Alors, peut-être que certains d'entre nous peuvent avoir l'impression de lui ressembler, que vous ayez 17 ans, ou plus jeune, ou plus vieux, hein, ça existe aussi. D'avoir tout et en réalité de rater tout quand même, parce qu'on est insupportable. Ou peut-être pouvez-vous avoir l'impression que votre gamin à vous, votre ado, lui ressemble. Alors, ça peut paraître désespérant, mais en réalité, quand on lit le livre de la Genèse, on se rend compte à quel point Joseph prend une place importante. Parce que c'est le patriarche dont on parle le plus dans l'Ancien Testament, dans la Genèse. 14 chapitres dans tout ce livre-là. Il devient quelqu'un d'important dans la lignée d'Abraham qui va jusqu'à Jésus. Mais si vous lui ressemblez, j'espère que vous ne provoquez pas les mêmes réactions que Joseph. Parce que le texte nous montre que non seulement il était détesté, mais qu'à la longue, il était même haï. Alors vous comprenez que au moment où Jacob va dire à son petit Joseph, dit, prends un peu des affaires là pour tes frères parce que ils sont loin et ils travaillent. Et c'est pas le père qui l'a dit, mais ça c'est moi qui le dis. Eux ils travaillent. Joseph il était bien tranquille à la maison. Et donc il envoie son fils apporter de la manger, etc. à ses frères qui sont au loin, sans se rendre compte à quel point il prend un risque. Risque terrible. Parce que ses frères le voient arriver de loin et tous les ressentiments ressortent. Montent à la surface et puis vont exploser. Ils en ont tellement marre de lui, c'est pas possible. Et c'est là où la descente en enfer commence pour Joseph. Et je suis sûr qu'il ne s'y attendait pas, qu'il se croyait important et aimé et donc invulnérable. Puis en plus, quand on est croyant, ça n'arrive pas, non ? Et pourtant, qui ne s'est jamais senti comme Joseph, au fond du trou, dans les difficultés, dans la misère, abandonné et traité injustement comme Joseph, ou simplement tellement découragé que ça devient désespérant. Qui n'a jamais crié à Dieu, pourquoi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Ou comme dans l'Apocalypse, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Qui n'a jamais prié pour que Dieu intervienne, pour que cette galère cesse. Et pourtant, l'exemple de Joseph montre que ça peut s'empirer encore. Et cela peut provoquer des questions douloureuses. Et moi, je m'imagine Joseph là, traîné derrière les chameaux, dans le désert, en train de s'interroger, de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Dieu n'entend-il pas ? Est-ce que je serai puni de Dieu ? Le voilà donc vendu comme esclave par ses propres frères, qui vont faire croire à leur père que Joseph est mort, dévoré par un lion. Parce que pour eux, Joseph était mort, n'existait plus. Et moi je suis sûr et certain que durant tout ce trajet en enfer, Joseph a dû souhaiter plusieurs fois être mort. Il aurait préféré très certainement être mort. Il arrive en Égypte, vous connaissez l'histoire, il est vendu comme esclave. Je ne vais pas vous brosser le tableau, mais je pense que c'est pire que tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Même si parfois nous nous râlons à cause de notre travail et dire qu'on est esclave par-ci, par-là, etc. Rien de comparable. Obligé de bosser pour Potiphar. Et là, tout à coup, dans le texte biblique, on a l'impression qu'il y a un temps de repos. On va lire le texte biblique ensemble. Genèse 39. Le Seigneur fut avec Joseph. Tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître et il resta à son service. Son maître le nomma intendant de sa maison et lui confia tout ce qui lui appartenait. Dès qu'il l'eut nommé intendant de sa maison et de tout ce qui lui appartenait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction du Seigneur était sur tout ce qui lui appartenait, à la maison comme au champ. Vous avez certainement remarqué un certain nombre de choses importantes. Première chose que je voudrais souligner, c'est cette phrase « Le Seigneur fut avec Joseph » et s'est répétée deux fois. Peut-être qu'à certains moments, Joseph a cru qu'il était seul, que le Seigneur n'était plus avec lui. Et très sincèrement, j'essaye de m'imaginer à sa place, où je me rappelle certains souvenirs douloureux que moi j'ai vécu. Et automatiquement, presque automatiquement, je me dis « Mais où est Dieu ? Est-il toujours là ? Est-il avec moi ?» Et pourtant, le Seigneur est avec lui. Même si, à la rigueur, lui, peut-être ne l'a pas senti, ne l'a pas vu tout de suite. Le Seigneur était avec lui. Puis ensuite, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il trouve grâce. Visiblement, il a changé. Et ensuite, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Si on voulait résumer, on dirait, Joseph, oui, situation difficile, mais d'abord, Dieu est avec lui, répété deux fois. Important de s'en rappeler, même si on ne le voit pas. Il trouve grâce aux yeux de son maître, et Dieu bénit au travers de lui et donne de la réussite. Alors, chouette, même en tant qu'esclave, on peut connaître ce temps de repos et se rappeler que Dieu est avec nous. Est-ce que ça veut dire que tout va bien maintenant? Est-ce que la suite a été aussi heureuse pour Joseph? Vous vous rappelez de l'histoire? Quand il est là chez Potiphar, qu'est-ce qui se passe? Bien, Potiphar, il a une femme. Et cette femme va s'intéresser de plus près à Joseph, et on va même dire s'intéresser de beaucoup trop près de Joseph. Cette femme n'y va par quatre chemins. Elle va dire « couche avec moi ». Le texte le dit carrément comme ça. « Couche avec moi ». Réaction de Joseph ? « Oh, ben chouette, on va en profiter ». C'est ça ? Non, pas du tout, heureusement. Hein. « Comment pourrais-je faire un aussi grand mal et pécher ainsi contre Dieu ?» Ah, je trouve ça admirable. On pourrait, encore une fois, se croire abandonné de Dieu. Mais lui n'abandonne pas Dieu. Il s'en rappelle. D'ailleurs, je dis entre parenthèses, cela montre à quel point l'éducation qu'il a reçue porte ses fruits dans les moments les plus difficiles. Voilà donc Joseph, au plus profond de la misère, fidèle à Dieu. Est-ce que ça lui a réussi? Non? Il s'est retrouvé où? En prison. C'est pas juste ça. Voilà, j'allais dire un chrétien, maintenant on va dire un croyant, fidèle à Dieu, même dans le moment difficile, et se retrouve en prison. Pas possible. Et encore, quand on dit prison, c'est pas les prisons comme ici, avec la télé, les appareils de gymnastique, etc. Pire que ça, quand même. Hein. Alors, la foi, est-ce que c'est une assurance tout risque? Est-ce que le fait qu'on a la foi élimine tous les risques, tous les problèmes de notre vie? On le voudrait bien. Je pense que vous et moi, en tout cas, ceux qui sont déjà un peu plus près de mon âge, vous savez que ce n'est pas le cas. Et très souvent, même quand on est jeune, on le sait déjà, que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on est croyant que Dieu empêche tout le mal. C'est la première conclusion que je tire de ce texte. La foi en Dieu n'empêche pas les problèmes provoqués par nous-mêmes. Et l'histoire de Joseph, bien, à la rigueur, on peut dire, franchement, les problèmes qu'il a eus, il les a cherchés quand même un peu. sa façon d'être. Hein? Mais la foi en Dieu n'empêche pas les problèmes non plus provoqués par les autres. Là, on pourrait penser peut-être aussi à la famille de Joseph, parce qu'elle était quand même largement dysfonctionnelle, hein, cette famille. Je veux dire, cette préférence montrée par le père, bah, c'était chercher des problèmes. Dieu ne va pas forcément les empêcher, c'est ainsi. Dieu n'empêche pas forcément les problèmes non plus provoqués par la vie. Parce que même si parfois, ou bien souvent, on aime bien désigner un responsable, il n'y a pas toujours des responsables qu'on peut trouver. La vie est faite de telle sorte qu'il y a des hauts et des bas. Dieu n'empêche pas les problèmes, même si nous lui sommes fidèles. Alors on pourrait se poser la question, à quoi cela sert-il alors d'être croyant? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et là encore, je vais reprendre le texte biblique. On a lu le premier passage qui se situait au moment où Joseph était esclave. Maintenant, un passage, petit passage, au moment où il se trouve en prison. Lisez avec moi. Le maître de Joseph le fit arrêter et mettre en prison, là où étaient enfermés les prisonniers du roi. Il restait là, en prison. Le Seigneur fut avec Joseph et lui accorda de la faveur. Il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. Est-ce que vous l'avez remarqué? Les répétitions? Exactement la même histoire. Le Seigneur fut avec Joseph, répété deux fois. Quand il est esclave, quand il est en prison. Ensuite, il lui donna de la grâce aux yeux du maître de la prison. Joseph ne se trouve pas seul, même si, et encore une fois, essayez de vous imaginer en prison, même s'il pouvait avoir cette impression-là. Mais soyons honnêtes, si Dieu s'appelle notre Père, moi en tant que Père, je ne peux pas toujours enlever ou empêcher le mal d'arriver à mon enfant. Mais ce que je peux faire, c'est montrer ma présence, faire sentir ma présence, lui dire « je suis avec toi ». Ça ne va pas résoudre tout, ça va l'aider quand même à faire face, cette présence aimante. Et ensuite il lui donne grâce, fait trouver grâce. Il le fait grandir. Est-ce que vous voyez le contraste avec cet ado difficile et insupportable du début? Personne ne pouvait le supporter, sauf le père. Et ici, il trouve grâce. Il a grandi. Il est transformé. Un jeune qui suscite la sympathie, la confiance. Et ensuite, bien le Seigneur fait réussir ses entreprises. On retrouve exactement le même phénomène entre Joseph esclave, Joseph en prison. Pourtant, les deux moments les plus bas de son existence, probablement. Dieu est avec lui, il trouve grâce et Dieu bénit. Est-ce que cela veut dire que toutes les misères sont finies? Alors, je ne vais pas insister trop longtemps parce que l'histoire est longue, bien sûr, 14 chapitres. Mais non, non, parce qu'il y a d'autres contretemps. Vous rappelez que dans les bénédictions que Joseph peut apporter dans la prison, il y a le fait qu'il interprète les rêves, notamment de les chansons du pharaon et du boulanger. Et pour les chansons, eh bien, il va pouvoir lui dire, voilà, tu vas être libéré, tu vas être réhabilité, et lui demande une faveur. Il dit, quand tu seras libéré et devant le pharaon, rappelle-toi de moi. Est-ce que les chansons, au moment où il se trouve devant le pharaon, quand il est libéré, il s'est rappelé de lui? Ah non, non, non. Et pourtant, on aurait pu tellement espérer. Vous connaissez ce sentiment, hein? On espérait tellement et ça n'arrive pas. Rien. Joseph, en prison. Est-ce que votre vie, parfois, fait penser un peu à celle de Joseph? Un toboggan infernal, comme ça? Il y a cette expression là, qui dit « quand une tuile commence à tomber », on a souvent l'impression qu'il y en a plein d'autres qui suivent. Un toboggan infernal, on descend de plus en plus. Oui, cela arrive au meilleur des croyants. une succession de misères, de déceptions, d'épreuves qui vous tombent dessus. Et parfois, vous pouvez avoir l'impression de l'avoir cherché un peu, ou beaucoup, peu importe. Mais parfois, cela peut sembler complètement injuste et absurde. C'est ce que Job a dû se dire aussi. Et pourtant, l'expérience de Joseph rappelle quelques certitudes de la foi. Et moi, je m'accroche à ces certitudes-là. D'abord, Dieu m'aime, quoi qu'il m'arrive. Quoi qu'il m'arrive, Dieu m'aime. En tout cas, pour moi, si je ne m'accroche pas à ça, j'ai l'impression que le toboggan ne s'arrêtera jamais, jamais, jamais. Deuxième certitude de la foi, comme un père aimant, Dieu veut faire sentir sa présence, sa proximité. Alors parfois, je ne la vois pas, mais je dois m'y accrocher. Troisième, Dieu veut faire de moi une source de bénédiction. L'histoire de Joseph ne se termine pas là, elle se termine bien, heureusement. Vous rappelez le pharaon qui a ce rêve des vaches maigres, des vaches grasses. Et là, finalement, bien les chansons vont se rappeler enfin de Joseph. Et Pharaon va demander à Joseph, va l'appeler, va demander, voilà, je sais que toi t'es le spécialiste des rêves, explique-moi mes rêves. Réponse de Joseph, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Encore une fois, formidable. Quand on regarde toutes les épreuves par lesquelles il est passé, quand on voit en même temps cette foi vivante qu'il a gardée, de donner toute gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Il a été fidèle dans la misère, au moment où il se trouve devant la femme de Potiphar. Et ici, il sort de prison, c'est la réussite, quelqu'un qui dit, voilà, toi, tu peux le faire. Il est fidèle dans la misère, mais aussi dans la réussite. Et il devient une bénédiction. Vous connaissez très bien la fin de l'histoire, puisqu'il devient administrateur général du royaume, il est libéré et peut aider Pharaon à gérer son pays. Il devient une bénédiction, un digne fils de son père Abraham. Vous connaissez, vous rappelez certainement l'histoire de Genèse 11, quand Dieu appelle Abraham, lui donne une mission, mais en même temps une promesse, en lui disant « tu deviendras une bénédiction pour le monde entier ». Bien ici, Joseph devient à son tour une bénédiction. Une bénédiction pour Pharaon, pour le peuple d'Égypte, mais aussi pour tous les autres peuples, dont sa propre famille, qui vient chercher de l'aide. Vous vous rappelez de cela? Essayez de vous mettre à la place de Joseph. Vous voyez vos frères. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que vous sentez dans votre cœur? Ah, mauvais souvenir. Comment ils ont pu faire ça? Toutes ces années de galère à cause d'eux. Vous sentez la colère remonter? Réaction de Joseph. Joseph dit à ses frères, je vous en prie, approchez-vous de moi. Avant cela, il a quand même, j'allais dire, joué un tout petit peu avec ses frères quand même, hein, parce qu'il fallait leur faire comprendre certaines choses. Mais ici, ce texte, il est étonnant de beauté. Ah, moi, je suis admiratif. Je vous en prie, approchez-vous de moi. Alors, ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Il ne va pas nier, ignorer le passé. Hein. Il ne va pas dire, oh, c'est rien. Ça n'existe pas. Si, si, ça existe. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici. Car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voilà 2 ans que la famine sévit dans le pays. Pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Ah, c'est... Ah, moi, je suis sans voix. Mais est-ce que vous voyez un tout petit peu la différence? Joseph va retrouver sa famille. Mais voyez la différence entre le début et la fin? L'histoire de Joseph, bien, c'est l'histoire qu'on appelle dans le Nouveau Testament d'Emmanuel, Dieu avec nous. Puisque cette histoire de Joseph nous rappelle que Dieu est avec nous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons. Il suffit que nous le voyons par le regard de la foi. Et l'histoire de Joseph, c'est aussi l'histoire de Dieu qui veut bénir au travers de nous. Et finalement, et c'est peut-être l'élément le plus important, Dieu qui veut nous transformer petit à petit. Le Joseph du début, Joseph de la fin, eh bien on se rend compte que la foi transforme complètement. La foi rend humble, responsable comme Joseph, patient, aimant, même dans les moments les plus difficiles, et enclin au pardon. La foi fait grandir. À la fin de cette histoire de Joseph, je ne vous souhaite pas que l'histoire de Joseph soit votre histoire. J'espère que vous ne passerez jamais par un tel toboggan infernal. Mais peu importe. Peu importe que vous y passiez ou non, parce que personne ne peut le dire à l'avance. Et puis personne n'échappe aux difficultés. Mais mon souhait, mon vœu, ma prière, pour vous et pour moi, c'est que quoi qu'il arrive, nous puissions savoir que Dieu nous aime. Savoir que Dieu est là, qu'on peut compter sur lui. Et que c'est lui qui nous transforme. Et que grâce à lui, nous puissions être une bénédiction. Soyez donc une bénédiction. Amen.